my feet. And other girls say,
you a bad one. And I love it, I never had one.
Du 14 au 24 novembre se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM.
Plus de 140 films documentaires présentés en 10 jours.
Des discussions avec des cinéastes et professionnels passionnés. Des œuvres interactives innovantes. Des soirées de musique émergente et plus encore à la Cinémathèque québécoise.
Cet automne, on sera là où toutes les histoires se rencontrent.
Et vous? Consultez la programmation sur ridm.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Polypop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour 2 heures de bombes sonores.
What are the day? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc.
Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en Stock. Mon nom est Mégane Bédard et donc je vous souhaite la bienvenue à cet épisode 207 de Pop en Stock. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial, une personne qu'on affectionne particulièrement à Pop en Stock. Ça fait quand même longtemps qu'il est venu nous parler. Mais donc aujourd'hui, on va parler d'un événement qui s'en vient. On va parler de jeux vidéo. On va parler d'une convention. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais présenter mon invité qui est en studio avec moi aujourd'hui, Christopher Chansey. Salut!
Salut!
Re-bienvenue à Pop en Stock.
Ça me fait plaisir de revenir. Je m'ennuyais de vous autres.
On essayait de voir avant d'entrer en onde, c'était quand la dernière fois que t'étais venu, puis on s'en souvient pas en tout.
Ce qui est un problème.
C'est un problème. Ça veut dire que tu viens pas assez souvent, mais c'est aussi à cause de ton emploi du temps et de tes mille et un projets.
Oui, c'est donc, ça. On se rend compte rapidement que quand tu dis oui à tout, tu dis non au temps. Fait que c'est un peu ça qui se passe.
Je mets ça sur une affiche, comme coller ça dans mon bureau, je pense.
C'est non surtout au sommeil.
C'est vraiment deep.
Remember, kids, say no to time.
Say no to time, dis oui à tout. Comme dans le film avec Jim Carrey.
Oui, Yes Man.
Yes Man. Et vous avez entendu Jean-Michel Berthiaume, donc l'autre bord de la ville.
Allegedly.
Allegedly, Jean-Michel Berthiaume.
C'est pas celui que vous pensez qu'il est, l'autre.
C'est l'autre, OK.
C'est exactement.
Noté. Merci. Mais oui, c'est ça. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Christopher Chansey, je vous le représente ou présente, si c'est la première fois donc, que vous entendez sa belle voix radiophonique. Donc, Christopher Chansey, président et directeur général de Manavoid Entertainment, administrateur du conseil d'administration de la Guilde des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec, et aussi chargé de cours en programmation, design et entrepreneuriat en jeux vidéo à l'Université de Montréal et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et aussi, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui participe au comité d'organisation du Megamix, donc le Megamix qui est un événement, on va en parler un petit peu plus, mais donc un événement de jeux vidéo pour les développeurs et développeuses de jeux vidéo indépendants du Québec.
Et le grand public.
Et le grand public.
Yes.
Donc, pour commencer, c'est ça, on va parler du Mega, on va parler de Mix, qu'est-ce que c'est, on va se mettre à jour aussi sur la guilde, parce qu'on en a déjà parlé dans des épisodes précédents sur les jeux indépendants. Mais toi qui es si bien stationné dans les hautes sphères organisatrices et administratives de la guilde, tu vas pouvoir me mettre un peu au courant de... En fait, c'est un peu pour prendre le pouls de l'industrie du jeu vidéo en ce moment au Québec et pour se mettre à jour sur, sur le sujet, et on va élargir aussi le sujet éventuellement. Mais d'abord et avant tout, Christopher, qu'est-ce que le méga?
Qu'est-ce que le méga? Qu'est-ce que le MIGS? C'est des bonnes questions. Donc, le méga, c'est la guilde qui organise ça. C'est le Montreal Expo Gaming Arcade. Ça, ça a été inspiré de nos voisins du Sud qui faisaient le Penny Expo...
Penny Arcade Expo?
Penny Arcade Expo, le PAX. Donc PAX East, c'est un événement où les développeurs de jeux vidéo vont à chaque année parce que le grand public peut essayer des centaines de jeux au même endroit. Puis ça attire 80 000 personnes à chaque année. Puis nous, on se demandait pourquoi est-ce que à Montréal, où on a des centaines de studios de développement de jeux vidéo, ben ces centaines de studios-là, ils finissaient toujours par aller à Boston pour présenter leurs jeux. Ça faisait comme pas de sens. Donc on a décidé avec la guilde de développer notre propre événement pour qu'on puisse présenter au grand public québécois les jeux vidéo super cool que nos développeurs d'ici sont en train de faire. Donc ça fait la troisième année que l'événement existe. Ça continue de grossir. Donc les deux dernières années, ça se passait au marché Bon Secours. Puis cette année, ça va se passer au Grand Quai ou le Quai Alexandra dans le Vieux-Port. Ça va être très 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 beau. Puis là, en plus, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on s'est associé à un autre événement qui se passait pas mal dans le même temps, qui était le MIGS, qui est le Montreal International Game Summit. Puis ça, c'est l'Alliance numérique. Donc, c'est plus les gros joueurs, les Ubisoft, les Warner, etc., qui organisaient tout ça. Et puis, le but du MIGS, c'était vraiment d'amener tout plein d'investisseurs étrangers, des conférenciers de partout à travers le monde, des studios de partout à travers le monde, des publishers, des médias, pour qu'ils viennent, dans le fond, à Montréal, puis qu'ils voient un petit peu comme un sneak peek des gros projets qui s'en viennent, des gros studios. Évidemment, il y avait toujours un petit pan indépendant aussi qui existait. Fait que là, cette année, ça faisait sens pour nous de mélanger les deux puis d'essayer d'avoir comme un volet grand public, mais aussi un volet très business. Et puis, on a réussi à faire ça en l'appelant le Mega MIGS. Puis, la Guilde et l'Alliance numérique travaillent ensemble très intimement dernièrement, justement, pour être capable d'arriver à tout ça. Et le tout est produit par Production Calico, qui est une boîte de production d'événements qui travaille extrêmement fort, qui font un excellent job. Puis, cet événement-là va être... On va remettre le jeu vidéo sur la map au Québec, en tout cas.
Ben, c'est une vraie... Je trouve que c'est une...
T'entends pas, Jim.
Non, c'est ça. Okay. je joue avec les micros depuis tantôt, là, tu sais. Je trouve que c'est une super bonne idée parce que, en fait, pendant que tu es en train de le décrire, ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'en allant ou en ayant un événement de cette envergure-là, ben, on va... parle d'un exemple personnel, tu sais, avoir l'opportunité de comme découvrir The Messenger, qui est une production québécoise, je me rappelle.
Absolument.
Avant que ça pète sa scène puis que t'as l'impression de la prendre un peu en retard, tu sais.
Exact. Puis ça, c'est vraiment un bon exemple, en fait, parce que spécifiquement pour The Messenger, eux, ils ont été publiés par un éditeur qui s'appelle Devolver Digital.
Pas pire.
Un gros en plus. Puis Devolver Digital, eux autres, ils les ont trouvés justement lors d'une convention. Donc Thierry puis Martin, qui sont les fondateurs de cette boîte-là, ils étaient là, ils étaient en train de pimper leur jeu, ils étaient super excités, ils présentaient ça aux médias, présentaient ça aux fans. Puis là, ben, il y a un publisher qui arrive, puis ils les voient aller, puis ils ont trouvé ça super dynamique, ce qu'ils faisaient. Le jeu, il y avait de l'air écœurant. Puis ils ont fini par leur donner un gros coup de main au lancement, puis peut-être même investir, je suis pas sûr c'est quoi le deal qu'ils ont fait avec eux autres. Mais au bout du compte, c'est comme ça que les mariages se font, là, quand t'es sur le terrain en train de présenter tes affaires, puis qu'en plus t'as tout un pan business qui est là, mais c'est comme ça qu'on ça foisonne à partir de là.
C'est ça, puis ça fait des espèces de... c'est quand même des gros succès, tu sais. Moi, j'ai un peu l'impression d'avoir appris l'existence de jeux-là sur le tard. Mm-hmm. Fait que je pense que, autant que je suis pas un immense gamer, ça serait vraiment le fun de pouvoir aller... au moins faire du plancher là, pour faire ah ok, mais tu sais, tenter le pouls, voir
clair.
Qu'est-ce qui s'en vient.
Puis j'ai vu le line-up de tous les studios qui est là cette année. On a au-dessus de 100 exposants, puis pour vrai, il y a des perles là. Ça va être vraiment des projets cool qu'il y a là, des projets que tu comprends, tu sais, le pan technologique ou l'innovation qu'il y a dedans là, c'est comme insane ce que les développeurs sont en train de faire. Tu pourrais même pas, tu sais, imaginer ça avant de le voir là. Fait que c'est vraiment c'est spécial là. Puis tu peux juste le voir en allant dans ces événements là, effectivement.
Ça devient-tu compliqué à suivre?
Qu'est-ce que tu veux
dire? Tout ça, comme tu dis, des innovations, des projets stimulants, de l'enthousiasme de studio, l'entraide qu'il y a avec la guilde, tout ça. Est-ce qu'il y a un point où est-ce que tu dis comme,
c'est une job à temps plein, définitivement, de garder une vigie technologique, une vigie sur tout ce qui se fait côté marketing, côté business. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir, ça c'est sûr. le jeu vidéo, je le dirai tout le temps, c'est vraiment c'est un des arts les plus complexes parce que ça rassemble tout, tu sais, c'est la musique, c'est le son, c'est la programmation, mm-hmm. c'est la photographie, l'animation, tu sais, puis dépendant du style visuel que tu utilises, tu peux avoir de la BD là-dedans, tu peux avoir de tout là. Mais puis à chaque année, ben les technologies changent, il y a des nouveaux plugins qui sortent, il y a des manières de faire des choses plus facilement qu'avant. Donc on essaie de rester au courant, essayer de comprendre, puis essayer de voir les opportunités aussi à travers ces innovations là, qu'est-ce que nous on est capable de faire maintenant qu'on pouvait pas faire avant.
Tout d'un coup, il y a un petit studio qui a trouvé un truc ou qui a
exact.
Comme ouais, tu fais, aïe, aïe, eux autres, ils ont appliqué ça de cette manière-là.
Non seulement ça, mais tu sais, chaque studio, particulièrement dans l'indépendant, chaque studio a sa signature. La notion d'auteur est peut-être un petit peu plus là aussi.
Ouais.
Fait que c'est sûr que, tu sais, un studio, comme on peut penser au grand succès qu'il y a eu dernièrement là, dans les indépendants, par exemple, Coped ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est un studio qui faisait de l'animation vraiment comme dans les années 30, puis il était vraiment bon à faire ça.
Ah oui, Copperhead, après, oui.
Ouais, okay, c'est ça. Oui, puis comme transférer ça, maintenant en jeu vidéo, mais là, à ce moment-là, c'est comme, ouais, on était vraiment bon pour faire l'animation. Ah, là, on est capable de le faire en jeu vidéo à cause des nouvelles technologies qu'il y a, puis les nouveaux engines, whatever. Mm-hmm. Mais là, en faisant le mariage de ces choses-là, mais ça crée des œuvres qui existaient peut-être pas avant, tu sais. Fait que c'est définitivement dans ces événements-là que tu peux tenter le pouls de l'industrie, puis de voir justement tout ce qui est en train de se créer.
Mm-hmm. Parce que pour les gens qui sont jamais allés dans un événement comme ça, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a un plancher. Puis on peut juste aller tester des jeux qui sont exposés là, c'est ça?
Exact, ouais, c'est ça. C'est un gros plancher d'exposition. Puis au Grand Quai, justement, il est plus grand qu'il l'était l'année passée. Et puis c'est comme des allées, puis des zigzags de studios de jeux. Puis là, t'en as des plus petits, t'en as des plus gros. Tu sais, évidemment, le booth de Ubisoft, il va être super gros, alors que tu sais, les booths des plus petits indépendants vont être un petit peu plus humbles, on s'entend. Mais ça veut pas dire que les jeux sont pas tout aussi intéressants. Mais oui, c'est ça. Toi, t'arrives là-bas, puis tu te fais juste émerveillé à tous les raccoins en fait du Grand Quai là, et c'est des nouveaux produits partout, puis ça c'est un gros spectre aussi, tu sais, tu vois des jeux pour enfants, des jeux pour adultes, pas des jeux pour adultes dans le point de vue sexuel,
non,
mais
oh,
des
oui.
jeux qui sont tu sais plus matures, et puis tu sais ça les tous les genres sont là, des platformers, des jeux d'aventure, des jeux d'exploration, tu sais mes partenaires de bureau à Fordham Studio sont là pour présenter des jeux sérieux, ouais, des jeux avec la notion éducative, où tu sais, il y a beaucoup de gens maintenant dans les corporations qui essaient de faire de la formation à travers le jeu, mm-hmm. parce que c'est ce qu'on joue, dans le fond, on l'assimile mieux. Fait qu'il y a une meilleure immersion, une meilleure rétention d'informations, puis ça fait que les gens, au bout du compte, sont mieux formés. Fait que eux autres, ils font ça pour des entreprises, des banques, des pharmaceutiques, tu sais, de tout et de partout. Fait qu'il y a plein de différents aussi styles, puis il y a des différentes choses. Puis je pense aussi qu'en tant que tu sais, comme en tant que grand public, en tant que parent ou en tant que personne qui connaît peut-être pas bien le jeu vidéo ou quelqu'un qui connaît très bien le jeu vidéo, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Puis je pense que tout le monde va apprendre de quoi à plein niveau.
Ben, c'est ça qui m'intéresse parce que tu sais, nos expériences diffèrent totalement par rapport aux conventions. Je suis vraiment plus quelqu'un qui a fréquenté les conventions de comic book. Puis fondamentalement, pour moi, j'ai toujours un peu l'approche de comme c'est pas la place où commencer. Tu sais, un Comic-Con, c'est un endroit qui est rassembleur, qui est bon pour comme se connecter avec une communauté, qu'on y participe ou pas. Ça peut être une belle façon de rencontrer, tu sais, find the others un peu, tu sais, de rencontrer les autres, de voir, prendre le pouls de la communauté, qu'est-ce qui est en train de se passer puis tout. Mais si ça tente de commencer à lire Batman, c'est peut-être pas le moment ou c'est peut-être pas la place pour le faire, parce que tu peux très aisément te faire submerger par le contenu, par la distillation des références. Il y en a énormément, puis ça peut être très intimidant pour certaines personnes. Fait que moi, je suis toujours plus par rapport aux comics en disant il faut que ça commence un à un.
Les comic bookshops sont vraiment mieux placés pour s'initier aux comics que...
qu'un con, tu sais.
Mais surtout que les Comic-Con ont un peu perdu leur vocation initiale, là, au sens où c'est vraiment rendu pas mal aux trois quarts un gros market de trucs geeks. Puis ensuite, il y a les comics, même s'il y a un gros pan de la programmation qui est vraiment axé sur les artistes, puis les entrevues, puis ce truc-là. Mais la plupart des gens qui vont au Comic-Con ne sont pas nécessairement familiers avec le
monde
du comics.
Mais tu vois, c'est drôle parce que ce que tu dis, c'est effectivement vrai. Tu sais, si nous autres, on prend le territoire québécois, ce que tu décris, c'est le Comic-Con de Montréal. Effectivement, le Comic-Con de Montréal est un brocante, essentiellement. Là. C'est vraiment un endroit où on se retrouve à avoir beaucoup de produits dérivés, ainsi de suite.
Le Comic-Con de Québec est très différent.
Puis, le sweet, si on peut dire, si on va prendre l'analogie j'ai Barbarousse et les trois ours, mais ça n'a pas rapport. Goldilocks and the Three Bears.
Barbarousse et les trois...
Ça rime. Le Comic-Con de Laval, j'ai vécu une expérience assez folle avec le Comic-Con de Laval il y a trois semaines. Parce que
mais
c'est...
qui est nouveau, là, qui n'existait pas avant.
Oui, et qui est purement... il est à 80% du long box. C'est 80% du comic qui se vend... très peu de produits dérivés, un peu de matériel pour la famille et tout. Puis j'ai trouvé ça extrêmement touchant de constater ça en mettant le pied dans la place, puis d'être retourné 20 ans dans le passé. T'sais, de vraiment être pré-explosion de San Diego, puis faire « Ah non, c'est comme quand j'étais petit, c'est comme la reine Elizabeth. » Puis c'était super parce que en étant reconnecté à ce moment-là, la conversation sur le comic était vraiment plus forte. Puis c'est drôle parce que je me serais pas attendu que sur un territoire assez petit comme le Québec, Montréal, Laval et Québec représentent des expériences totalement différentes, malgré que c'est la même organisation qui s'en occupe.
Ish, parce que le Comic-Con, c'est une franchise, puis c'est comme des gens qui décident d'utiliser le nom Comic-Con dans les différentes régions. Ça veut pas dire que c'est tout le monde qui l'organise.
Mais moi, je peux te confirmer que Québec, Montréal, Québec et Laval, c'est la même gang.
C'est bon, c'est bon.
C'est ça, c'est pas du tout le même type de Comic-Con. Ça fait que c'était vraiment surprenant, puis ça se rapproche un peu à ce que tu disais par rapport à la variété de types.
C'est ça, pour répondre à ce que tu disais, tu sais, sur le onboarding, peut-être des gens qui sont nouveaux dans l'industrie,
ouais,
par exemple.
Ouais.
Tu sais, c'est ça, je pense que pour ce qui est du comic book, c'est vraiment une communauté qui est assez, tu sais, serrée, tu sais, c'est fort, puis c'est des gens qui sont hardcore, puis qui connaissent très bien le subject matter qui est là, tu sais. Je pense que le jeu vidéo est peut-être un petit peu plus mainstream, ce qui fait que, par exemple, mes parents, ils ont été confrontés aux jeux vidéo, malgré le fait qu'ils jouent pas nécessairement à des jeux vidéo, juste parce que, ben, moi et mon frère, on joue à des jeux vidéo, puis, tu sais, veut pas, ben, ça fait partie de ce qu'ils connaissent pas, mais qu'ils connaissent un peu.
Ouais, les garçons sont encore en train de...
Fait qu'ils sont toujours, ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont toujours un peu, tu sais, comme, ils comprennent ce que je fais, puis, tu sais, ils m'encouragent beaucoup dans le développement de jeux vidéo, puis ces choses-là, mais n'empêche que, tu sais, ils ont quand même une certaine incompréhension par rapport industrie puis au spectre de ce que je suis en train de faire.
Oui, ben oui.
Fait que eux aller à un événement comme ça, c'est sûr qu'ils peuvent regarder avec un œil nouveau. Ils peuvent regarder ça puis se dire ah ben cool, ok, là je comprends que t'as tous ces types de choses là. J'avais jamais compris qu'il y avait des centaines de studios qui étaient là au Québec. Puis tu sais, c'est comme l'industrie prend une nouvelle forme puis prend plus de sérieux aussi, tu sais, parce que pour vrai les médias traditionnels, ils en parlent pas beaucoup du jeu vidéo là au Québec là. On veut bien, mais tu sais, mettons, aller à Tout le monde en parle quand t'as vendu 10 000 albums, cool, mais aller à Tout le monde en parle quand t'as vendu 1 million de copies d'un jeu vidéo, nope.
Non.
Fait que c'est bizarre, mais l'industrie a comme pas de reconnaissance encore au Québec, puis on essaie aussi à travers le Megamix de justement redorer l'image de... Ben pas redorer, parce que l'image est très dorée. C'est plus, tu sais, de juste rentrer dans les ménages puis faire comprendre au monde à quel point on est un pôle mondial du jeu vidéo, tu sais.
Ouais, ouais, qui est une chose qui... connu, mais peut-être pas intégré, je dirais.
Je pense que je sais pas où est-ce que la communication elle se fait pas, mais tu sais, en termes de développeurs per capita, on est les premiers au monde. En termes de studios internationaux établis au Québec, il y en a pas plus qu'au Québec. Tu sais, je veux dire, en termes de PIB, je veux dire, on rentre presque 4 milliards de dollars par année. Je veux dire, c'est pas comme si c'était une petite industrie, là. C'est énorme ce qu'on fait. Mais ça passe vraiment sous le radar, puis à quelque part j'ai l'impression que ça vient peut-être du fait que pendant longtemps, on associait le jeu vidéo à quelque chose de peut-être plus juvénile. Aujourd'hui, on n'est plus là pendant tout. Le joueur moyen, il a 38 ans, puis je veux dire, tu sais, on est rendu, c'est une legit business, là, aujourd'hui.
Oui,
là,
c'est ça. Ça, je pense que c'est bien connu, mais il n'y a pas, c'est drôle, parce que, encore, revenir à ce qui est familier avec moi, tu sais, tout le monde le sait qu'un film de Batman, c'est de l'argent. Pas comme tout le monde le sait qu'un j'irais chercher comme une franchise, mais
qu'un Candy Crush Saga fait presque 500 000 US par jour, tu sais, ou comme c'est ça, je te dis là, on n'y est pas, man. C'est les jeux vidéo, il y a des gros potentiels, puis les
en microtransactions.
Ouais. Puis ça, c'est un exemple. Tu sais, les autres sont aux États-Unis, puis ils font les microtransactions, puis tout ça. Mais t'as aussi, justement, Sabotage, qui ont eu des gros succès. Outlast de Red Barrels, qui est un jeu d'horreur qui a vendu dans des millions de copies.
Quand je me rappelle, moi, c'est une statistique qui m'avait vraiment effrayé, là, que c'était Call of Duty Modern Warfare 2, je pense, qui était l'objet culturel le plus lucratif de l'histoire de l'humanité.
C'est fou, mais...
Je pense que c'est ce titre-là. Là,
c'est ça. Ben, je pense ben, ça, faudrait voir. Je suis sûr que c'est vrai aujourd'hui, mais c'est, ouais, ça l'est peut-être à l'époque.
Peut-être vendu, peut-être Red Dead a battu ça.
Ouais, je pense qu'on est rendu dans les Red Dead, les GTA 5 ou des choses comme ça, là, dans les plus lucratifs. Mais
l'idée de l'objet culturel le plus lucratif, c'est, c'est une grosse catégorie, ça. Là,
Puis au bout du compte, ça reste quand même de l'art, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est comme incroyable. C'est que c'est mass market. C'est tout le monde joue. Tout le monde joue à des choses différentes. Tout le monde joue à des choses nichées. Puis des micro-communautés se créent autour de ces jeux-là. Puis dans le fond, là, on a l'opportunité de rencontrer tout le monde ou rencontrer les développeurs à travers le MIG. Fait que ça, c'est le fun pour ça.
Il y a aussi le fait que maintenant, avec l'intégration du MIGS, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir comme une je dirais une expansion vers l'international encore plus.
Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, le MIGS existe depuis plus longtemps que le MEGA. L'Alliance numérique fait le MIGS depuis 15 ans, si c'est pas 20. Cette année, on le fait conjointement avec eux, puis c'est sûr que pour nous, ça l'augmente. Mais pour nous, on est tous une industrie, là. Mais pour le côté MEGA, c'est le fun, parce qu'il y a plus de studios internationaux qui sont là, fait que ça nous permet d'échanger avec comme les pratiques avec d'autres pays, ou de voir comment est-ce qu'eux font leur jeu, où eux sont rendus avec les technologies et tout. Est-ce qu'eux, ils ont de l'aide gouvernementale, ou est-ce qu'eux, ils ont des subventions? Est-ce qu'il y a des maillages qu'on peut faire? Des choses comme ça. Fait que ça, c'est super intéressant pour ça. Et puis, il y a même du public de l'international qui vient, puis il y a des conférenciers surtout qui sont là pour le MIGS, qui viennent de partout. Parce que c'est sûr qu'au Québec, on a accès au Québec, tu sais. Fait que, je veux dire, moi, j'en donne des conférences. Je vais souvent voir des conférences de gens pertinents de mon industrie locale, mais j'ai pas toujours l'opportunité de voir, par exemple, une Ikumi Nakamura qui va venir, qui est super connue, qui est en train de faire un gros projet. Elle vient de lâcher son ancien job, elle part un studio, puis là, elle vient au Megamix, puis elle va donner un talk, tu sais. Puis là, c'est quelqu'un de super awesome qu'on pourrait jamais voir dans aucun autre contexte à part au Megamix. Puis des gens de plein d'industries qui vont être là, qui sont super pertinents dans plein d'affaires en plus, que ce soit business, marketing, art, encore une fois, prog, design... So many things.
C'est ça, c'est que ça a vraiment l'air de quelque chose que, même pour des gens qu'on travaille en culture populaire, on a peut-être une espèce de d'intuition qui se passe de quoi là-bas, mais ça se déploie tellement de façon immense que je sais pas pour toi, Megan, moi je suis pas nécessairement intimidé, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup à apprendre, là.
Mais un peu comme quelqu'un serait intimidé d'embarquer dans Batman.
Non, j'ai vraiment l'impression que d'embarquer dans Batman, c'est plus intimidant, à la limite. Étant même bien cerné dans cette communauté-là, je suis quand même sur mes gardes quand j'essaie de le conseiller à quelqu'un, mais toi, t'as pas l'air d'avoir cette même crainte-là par rapport au MIGS, au Megamix. T'as vraiment l'air de dire non, c'est pour tout le monde. Là où moi, je serais comme... comment ça compte goutte?
Définitivement pour tout le monde. Moi, t'arrives là-bas, les développeurs sont... Tu sais, je les connais tous à travers la guilde. On est 186 studios aujourd'hui. Là, fait que je connais un peu tout le monde qui se parle... Tu sais, qui est au Québec au moins. Puis, c'est tout du monde qui sont approchables. Puis c'est tout du monde peu importe ton niveau, ils vont parler, tu sais, comme... Que ce soit avec des mamans, justement, de parler de jeux vidéo, ou que ce soit parler avec un hardcore gamer qui trippe sur ce que tu fais, ou même quelqu'un qui trippe pas sur ce que tu fais, puis que t'essaies de faire comprendre, toi, ta vision de ce que t'es en train de faire, je veux dire, c'est... Ouais. L'espace d'échange est parfait pour ça, tu sais.
Ouais, mais il y a aussi le fait que, contrairement à Batman, il y a tellement de diversité dans l'industrie du jeu vidéo indépendant au Québec, que comme... C'est, tu peux en avoir vraiment de tous les goûts, là. C'est... Peu importe le genre, peu importe le public, là. Fait qu'il
y a une diversité dans Batman?
Non, je veux dire, dans les thèmes.
Ouais, non, j'avoue que... Ouais.
C'est pas mal un peu... Il y a des thèmes récurrents pas mal plus souvent dans Batman qu'au Megamix.
Oui, OK. C'est OK, d'accord. Je pensais à Little Gotham. J'étais comme, mais non, il y a des...
Il y en a des cutie, c'est Batman.
C'est ça, Mr. Freeze, deux pieds de haut, là. Ouais.
Mais oui, il y en a. Mais il y en a peut-être pas autant.
Mais c'est ça, puis c'est... T'as l'air de dire que c'est pas... Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Tu sais, je pense notamment l'idée que... Il commence à avoir peut-être des percées par rapport aux jeux compétitifs.
Oui, le e-sport s'est rendu très gros, particulièrement au Québec, en fait.
Ben, on sait que c'est gros, mais là, tu sais, comme... Ouais,
mais maintenant qu'il est rentré à RDS, c'est déjà un gros pas pour l'entrée du jeu vidéo dans les médias québécois mainstream.
Définitivement.
Tu sais, de mettre ça, c'est déjà un message de reconnaître cette pratique-là comme quelque chose de légitime.
Oui, définitivement. Puis RDS va être là. On a une zone e-sports Omega, puis... On est en train de travailler sur une couple d'affaires, justement, de compétition, peut-être justement à l'international. Fait qu'on verra si on est capable de dernière seconde de rabouter quelques trucs, là. Mais il y a plein de trucs qui vont se passer au Megamix côté e-sports. C'est sûr, c'est une grosse industrie. Je veux dire, quand t'es rendu avec des Jennifer Lopez qui investissent dans des teams de e-sports, là, ouais, elle a une équipe d'Overwatch.
Comment s'appelle l'équipe?
Oh boy, ça, je sais pas. Par exemple. T'as LeBron James, t'as les Patriots de New England qui ont investi là-dedans, l'Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain ont une team, puis là, maintenant, aujourd'hui, t'as plein de genres différents. Là. C'est Rocket League, où est-ce que tu joues au soccer avec des autos, puis t'as les League of Legends, puis t'as aussi des jeux de cartes comme Magic the Gathering.
StarCraft, qu'on peut jamais.
StarCraft.
Toujours.
On sera jamais bon, mais on va toujours apprécier le talent. Fait que c'est ça, aujourd'hui, en plus, t'as de la variété, en plus, dans les e-sports qui sont là, puis aussi avec tout le talk qui se passe autour des Olympiques, là, qui s'en viennent en France, là, ben là, à ce moment-là, ils sont en train de dire que si c'est pas intégré dans les Olympiques, ça va être les Olympiques des e-sports en parallèle, en même temps, pour essayer justement de légitimiser la pratique.
Wow, OK. Puis, encore pour ramener ça au Comic-Con, je sais que dans les dernières années, c'est ça, un peu la manière de ce que Megan disait, c'est devenu une espèce de foire mercantile, puis il y a beaucoup de gens qui reconnaissent ce branding-là comme un endroit où tu payes de l'argent, tu payes un billet pour aller acheter des affaires. mais il y a aussi des places comme DragonCon, il y a vraiment des petites conventions, il me semble que Salt Lake City, même en Angleterre, il y a Thought Bubble, là, qui est comme la grosse convention qui englobe un aspect pédagogique, qui est géré par une artiste, malheureusement, son nom m'échappe actuellement, mais c'est elle souffrait de dyslexie, fait qu'elle a décidé de monter un volet pédagogique à Thought Bubble, qui est devenu un espèce d'organisme qui est devenu en parallèle aussi un organisme qui aide les développements de la littératie à l'école, tout. Je vois beaucoup dans l'école à la fois cette idée-là de comme un empire comme San Diego, comme New York, et ainsi de suite, mais aussi des petites forteresses qui font, nous autres, on fait ça. On a ça comme spécialité. DragonCon, c'est la familiarité, c'est la communauté. Elle est très, 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 très forte dans DragonCon. Est-ce qu'il y a ce type de dynamique-là qui existe dans les trucs de jeux vidéo?
Non. Ce que je dirais, c'est que l'objectif de l'événement, c'est vraiment de démocratiser le jeu puis de le présenter au grand public puis de permettre aux studios de rayonner chez eux. Fait que c'est vraiment plus là, je dirais, l'objectif du Mega en particulier. L'objectif du MIG, c'est vraiment de rayonner à l'international à ce moment-là, puis de vraiment, tu sais, de donner une plus-value en côté business to business, tu sais, pour faire du mariage d'affaires, c'est à travers le MIG que tu vas le faire. Fait que c'est plus des grandes portées, plus que des portées nichées, si on veut. Mais n'empêche que quand tu arrives là-bas, au Mega, tu peux retrouver certaines niches, justement, comme je parlais tantôt. Fait qu'il y a comme un peu des deux. Mais je pense que la portée grand public puis la portée mass market, c'est ce qu'on essaie de faire ici. C'est vraiment une opportunité pour notre industrie de se réunir, puis de réunir tous les gens qui trippent sur les jeux vidéo sur l'île de Montréal à venir puis à tripper pendant une fin de semaine avec nous autres. C'est vraiment puis comparé à un Comic-Con, par exemple, où t'as des gens, il y a beaucoup de mercantiles, puis il y a beaucoup de gens qui vendent des choses. Ici, les gens qui vendent des choses, c'est les développeurs eux-mêmes. Fait que t'es en train de parler avec l'auteur, avec le dessinateur, avec le programmeur ou avec le designer, tu sais.
Puis ils vendent quoi? Ils vendent les Steam?
Non, mais tu sais, il y a des gens qui vont vendre leur jeu. Nous, par exemple, notre jeu, il sort juste en 2021 chez Manavoid. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on va faire, c'est on va vendre des pins, on va vendre des t-shirts, on va essayer d'avoir du monde sur nos mailing lists parce qu'on veut être capable qu'ils se gardent au courant sur le jeu. Ouais. On veut aussi tester notre jeu, on veut que les gens l'essayent, puis qu'on veut voir c'est quoi la réaction du public. Ouais. À date, on était au Comic-Con de Montréal avec Rainbow Billy, notre prochain produit. Puis, on s'est rendu compte, Colin, je savais pas, mais les mamans, ils trippent sur notre jeu parce que c'est un jeu non violent. Puis
c'est très cute,
c'est super cartoony. Puis nous, on avait toujours comme les personnes de 30 ans qui venaient jouer, puis ils trippaient à cause du RPG system, qui était vraiment un traditional RPG à la Final Fantasy. Sauf que là, on s'est rendu compte, on savait pas, mais un des publics cibles, c'est justement, on savait que les enfants seraient un public cible parce que notre jeu est vraiment cartoon. Sauf qu'on savait pas que les mères seraient un public cible parce qu'eux autres, ils veulent acheter des produits qui peuvent être consommés par les enfants qui sont pour une poids non violent ou qui sont plus cute. Fait que nous autres, on est comme, on a appris tellement d'affaires juste à aller à un événement. Tu sais, comme tu te rends compte, tu parles avec le monde, t'es dans le concret. Là. Fait que tout ce qui est pas bon avec ton jeu, c'est là que tu te le fais dire. Puis tout ce qui était awesome avec ton jeu, c'est aussi là que tu te le fais dire. Mm. Fait que c'est un bon playtest, si on veut, un bon test de marché.
Mais même comme parce que à ce qui a trait de l'industrie québécoise, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être fait, mais comme je sais qu'il y a Pax a une vocation. Il y en a d'autres que je suis pas capable de nommer on the fly comme ça, qui ont toutes des vocations particulières.
Ouais.
Est-ce que
on a cette aspiration là de devenir comme quelque chose de différent?
Ben par exemple, les gens sont à Baltimore et sont comme oh shit, c'est Omega Mix que ça se passe.
Ouais, je comprends. Mais je pense que
parce
oui.
Que parce qu'il y a ça, parce qu'il y a des clowns, parce qu'il y a des grosses nouilles, je sais pas.
Mais on se le fait dire souvent en fait, parce que comme autant qu'ici au Québec, comme je disais tantôt, il n'y a pas énormément de reconnaissance pour l'industrie en ce moment. Mm-hmm. À l'international, c'est l'inverse. Tout le monde reconnaît Montréal comme un hub créatif, comme un hub de développement de jeux vidéo.
Oui, ouais, c'est la scène de musique indépendante dans les années 2000.
Exact, là, c'est ça. Tout le monde sait que tous les gros studios sont ici. Tout le monde sait que la scène indépendante ici est incroyable. Parce que nous, on se pointe dans les événements internationaux, puis ils nous voient tout aller. T'sais. Fait que les gens ailleurs sont très impressionnés par ce que Montréal fait. Fait que eux, maintenant, ils ont l'opportunité, justement, de venir voir à un endroit tout ce que Montréal fait. Fait que pour les éditeurs de jeux, par exemple, les publishers qui, eux, investissent dans les projets ou essaient de marketer des projets ou les distribuer, ben là, eux, ils peuvent venir, puis là, ils voient tout le monde à Montréal un shot. Puis là, ça a énormément de valeur. Ben, de un, pour les studios qui essaient peut-être de se faire financer des produits. Puis de deux, ben pour les publishers qui veulent justement juste shipper des produits, maintenant ils peuvent venir ici à Montréal, voir tous les jeux qui sont en train de se faire, choisir lesquels qui fit avec leur portfolio, potentiellement faire de la business avec eux autres. T'sais. Fait qu'il y a comme plein d'affaires qui rentrent ensemble.
Puis y a-tu quelque chose par rapport au... Parce que le gouvernement, dans les 10 dernières années, a été très favorable à l'implantation des nouvelles des studios technologiques qui ont eu des tax breaks. Ils ont vraiment essayé de stimuler ça. Est-ce qu'eux autres, ils sont non pas nécessairement impliqués, mais est-ce que vous avez comme un son de cloche de merci?
Définitivement. Oui, ils sont très impliqués, eux. Tu sais, nous, on travaille avec beaucoup de différents paliers gouvernements. Je veux dire, la ville de Montréal est involved. On a parlé avec les différents ministères. Le MEI est là. Tu sais, que ce soit Québec, fédéral, etc., on parle avec tous les paliers. Tout le monde est invité. Je pense qu'on a même invité la mairesse. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a une dimension politique à tout ça. Et puis oui, je veux dire, c'est un gros boom technologique qu'il y a eu dans les dernières 20 années. Je veux dire, on est devenu un powerhouse à cause de ces crédits d'impôt-là qui ont été instaurés. Et puis ça arrête pas, tu sais. Puis à chaque année, on ramène plus de cash. Puis à chaque année, on fait mieux. Puis à chaque année, on grossit. Puis, tu sais, c'est...
Plus d'employés.
On attire plus de gens. Ces gens-là viennent s'installer au Québec. Ils font des enfants ici. Tout le monde paye des taxes, c'est sexy, là. C'est ce qui est le fun aussi avec le jeu vidéo, c'est que vu que c'est un produit qui s'exporte,
ben oui, c'est ça.
Je veux dire, je fais une copie de mon jeu, je l'upload sur une plateforme de distribution, puis après ça, je le distribue partout à l'international. Je ramène du nouveau cash à l'intérieur du pays. Les gouvernements sont super hype avec le jeu vidéo. Tout le monde devrait être super hype avec le jeu vidéo. C'est de la belle argent qui rentre au pays pour essentiellement aucun frais de production en termes de matériaux. Besoin d'asseoir quelqu'un sur un ordi puis de taper pendant un an et demi. Puis après ça, à un moment donné, ben il y a un jeu qui pop out puis ça vend. C'est incroyable. Fait que c'est ça. Fait que oui, il y a toute la politique qui est involved. On a Export Québec aussi qui est super involved avec nous parce que eux, justement, ils vont chercher toutes les délégations internationales pour qu'ils viennent ici, tous les médias, tous les publishers, encore une fois. Montréal International, Tourisme Montréal.
Fait que tout le monde est impliqué.
Tout le monde est impliqué.
Sauf le public.
Ouais, c'est ça qui est
le public va être impliqué. Le 16-17 novembre, le public va être là. L'année passée, on était 5000, 6000 comme personnes qui sont venues au Megamix. Cette année, on s'attend au minimum le double.
Ben oui, parce que le marché bon secours, c'est quand même assez petit.
C'est ça. À un moment donné, on était à capacité. Il a fallu qu'on fasse attendre le monde. Tu sais.
Mais c'est une belle salle, là, mais tu peux pas...
Non, c'est ça. C'est
des expos vegan qui se passent. Là,
pas... Non. On s'est rendu compte de l'engouement qu'il y avait l'année passée. Fait que cette année, on le fait en gros. On le fait en gros avec le mix en plus pour le méga. Fait que ça va être un gros hit. Puis si ça continue de bien aller comme ça, parce qu'à chaque année, on grossit, je veux dire, c'est pas impossible qu'on take over le vieux port au complet dans les années à venir, un peu comme le Comic-Con de San Diego. le corporate aspect of that.
Non, c'est pas ça, mais c'est parce qu'il y a eu des déboires par rapport à San Diego, où même le Comic-Con était rendu qu'il demandait des stades à la ville, puis qui ont dit si vous ne donnez pas notre stade, on va aller ailleurs, puis tout. Puis
ça serait borderline beau de se rendre là, mais c'est vraiment pas dans nos aspirations de partir de Montréal. Au contraire, on essaye de justement faire rayonner notre place à nous. Fait que ça arrivera pas. Non, c'est plus une question de rajouter des conférences, plus une question de rajouter peut-être une plus grosse zone e-sport. Fait que là, on a le Grand Quai cette année. Puis ouais. On a été bougé de refuser du monde cette année parce que les exposants se sont remplis beaucoup trop vite. Fait que là, on comprend déjà qu'on a des enjeux de grossir l'événement. Fait que là, on essaie de faire ça smart aussi, pas de grossir trop vite, mais en même temps, faut répondre à la demande. Mm-hmm.
Je trouve ça quand même intéressant parce que tu as dit quand même, il y a quelques minutes, que tout le monde est intéressé à l'international, aux jeux vidéo québécois, sauf les Québécois. Ouais. Je trouve que c'est un peu spécial au sens où c'est pas une industrie. C'est une industrie dont on est fier, mais comme vraiment très indirectement. On dirait que la population québécoise n'a pas vraiment de lien d'appartenance avec ce qui se fait dans le jeu vidéo en ce moment, contrairement par exemple à la littérature québécoise, à la télévision québécoise, où ce que il y a vraiment comme un, j'ai l'impression qu'il y a comme un lien identitaire qui se crée. On va mettre des guillemets puis des bémols ici là, pendant que je fais, mais je sais pas si t'as une idée de pourquoi.
Je pense que c'est une question générationnelle, tu sais. Je pense que mes parents, mes oncles, mes tantes ou mes grands-parents par exemple, ils comprennent pas le jeu vidéo comme il est aujourd'hui. Ils comprennent le jeu vidéo comme un arcade, ou ils comprennent le jeu vidéo comme Pong quand ils jouaient quand ils étaient jeunes. Mais comprendre le jeu vidéo comme industrie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est comme quelque chose, s'ils sont pas confrontés à ça continuellement, ils catchent peut-être pas où est-ce qu'on est rendu, puis ils catchent pas à quel point ça a changé. Aussi, je veux dire, il y a une question de stats là-dedans. Je veux dire, comme je disais tantôt, le joueur moyen il a 38 ans.
Ben, c'est ça.
Sauf qu'il y a juste 17% des jeux qui est orienté vers un public plus mature. Ce qui veut dire que peut-être qu'il y a plein de niches de gens qui sont sous-représentés. Même les femmes en jeux vidéo, je veux dire, 50% des joueurs sont des joueuses. Et puis, il n'y a pas beaucoup de contenu pro-féminin ou pro. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de contenu qui peut intéresser les femmes. Nécessairement,
pas de vers les femmes, là,
non, ben c'est ça, exact. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'opportunités encore en fait de créer des jeux nouveaux qui peuvent attirer des nouveaux marchés qui sont sous-représentés.
Les jeux mobiles aussi, qui c'est comme une grande part des gens qui jouent à des jeux, c'est des gens qui jouent à Candy Crush et compagnie, mais c'est encore des jeux là.
C'est ça. Je veux dire, j'ai une tante qui est rendue genre niveau 1800 dans Candy Crush, puis trop où est-ce qu'ils sont rendus. Puis dernière fois, tu sais, comme à temps perdu, genre je regardais ça, mon Candy Crush, comme moi je suis rendu à niveau 300, je me sentais fier, tu sais. Puis là, je regarde ma tante à niveau 1800, je suis comme.
C'est une guimauve avec des immenses
muscles. Ouais, j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, moi je sais combien de temps ça prend de se rendre à 300, là, 1800, là, c'est un autre game complètement. Ouais.
How many hours have you clocked?
Non, c'est ça, j'avais peur d'y parler.
C'est ça qui est surprenant, c'est que c'est vrai que tu lignes les figures de nos parents, puis tout, mais j'ai 37 ans,
ouais.
J'ai l'impression que l'industrie du jeu vidéo m'échappe.
Ouais, peut-être que les produits qui se font, c'est pas les produits qui t'interpellent.
Je pense pas. Ben non, elle a l'inquiétude. C'est à mon avis, ou du moins moi, qu'est-ce que je connais, j'aimerais connaître. Je suis 100% le public cible pour l'événement. C'est vraiment parce que je suis de ces personnes-là qui sait. C'est ça. Il y a un nouveau. Qu'est-ce que je sais qui sort? T'sais, j'ai connais un peu les jeux qui sortent
mais
actuellement.
Mais en plus, toi, tu travailles dans le pop culture, en plus.
C'est
là, ça. Je veux dire, tu sais, t'es dedans, en plus.
Fait que je sais qu'il y a Call of Duty, là, qui s'en vient.
C'est ça. Fait que mais tu vois, tu dis que tu sais que Call of Duty s'en vient parce qu'il y a des millions en marketing qui vont dans un Call of Duty. Mm-hmm. Au Québec, on mousse pas nos propres jeux encore, tu sais. Je veux dire, on n'est pas sur toutes les radios, on n'est pas sur toutes les émissions de télé, on a de la misère encore à se marketer comme du monde, tu sais.
C'est pas
notre faute, nécessairement. C'est ça. Puis c'est pas vrai qu'il y a rien qui se fait, parce que je veux pas dénigrer le travail justement des RDS ou des Pays sur Start Mathieu Dugal fait plein de choses aussi pour le jeu vidéo. Je veux dire, il y en a là, du monde qui parle de jeu vidéo, c'est pas comme s'il y en avait zéro. Mais quand on parle de coverage, mass media, salut, bonjour, tout le monde en parle, tu sais, des choses que n'importe qui au Québec finit par regarder, là on a zéro présence, puis c'est ça qui fait que t'as zéro knowledge de ce qui se passe.
J'ai jamais entendu parler d'un lancement de jeu vidéo de ma vie.
C'est ça. Fait que si tu viens au Mega Mix, par exemple, je te promets que tu vas trouver genre au moins 10 jeux que tu vas vouloir triper là-dessus.
Ah, mais il est là le risque.
Ouais.
Je suis conscient de ça. Je sais que je vais tomber dedans. J'ai promis à mon fils une Switch quand je finissais ma thèse, parce que...
Ça fait 8 ans de ça.
Je peux pas tomber dedans. Non, j'ai commencé, je pense, quand Haunted Mansion ou Super Smash Brothers est sorti. Okay, là, okay. Il était comme, oh, il y a quelque chose là-dessus. Ah, crap. Puis Hello Messenger est arrivé, je fais quelque chose pour moi là-dessus. Je fais, oh man, ce jeu-là, il a trop le fun. Mm. Puis là, j'ai joué comme 15 minutes. Je fais, ah, effectivement, c'est trop le fun.
Ouais. Mais, puis je jouais sur le rétro en plus. Fait que là, tu sais, pour les gens d'un âge comme moi puis toi, dans la trentaine par exemple, ben à ce moment-là, peut-être que ça nous titille la nostalgie.
Ça nous pogne le Ninja Gaiden.
Oui, exactement. Je
suis très, très, très d'accord là-dessus. Puis c'est drôle parce que, un peu à la manière que moi j'ai une philosophie par rapport à la culture populaire, surtout par rapport à sa représentation dans le Québec, c'est que je me dis que le plus qu'elle va être vue, le plus qu'elle va se manifester, le plus qu'elle va être qu'elle va fleurir là, littéralement, le plus que toutes les dimensions de la culture pop vont être des jardins complets, le plus que les chercheurs en culture pop vont avoir du matériel pour travailler avec. C'est pas comme si ça me dérangeait de continuellement avoir à me tourner vers les États-Unis ou l'Europe pour parler d'objets de la culture populaire, mais j'aimerais ça une fois de temps en temps avoir un échantillonnage raisonnable pour parler de quelque chose qui est ici. Est-ce que tu penses qu'un événement comme le Méga va aussi beaucoup profiter à la recherche sur la... Parce que t'as deux chapeaux, t'es quand même aussi un chercheur aussi.
Oui, ben, tu sais, oui, je pense que comme déjà, à travers la guilde, on fait beaucoup plus de maillage avec les universités, on ouais. les implique beaucoup plus. Comme là, il va y avoir toute une traque de conférences sur l'histoire des jeux vidéo. Puis tu sais, il va y avoir de l'académia aussi qui va être là-bas. Fait que c'est sûr que on s'imbrique un peu plus.
Ouais.
Aussi, on a toutes les intentions dans le futur proche de la guilde d'avoir peut-être un comité académia où est-ce qu'on pourrait justement commencer peut-être à parler de vigie technologique puis dire aux universités, ouais, mais là, tout le monde est rendu sur tel programme. Fait qu'arrêter d'enseigner lui, puis tu sais, commencer à enseigner quelque chose qui va être pertinent pour l'industrie. Ou... Puis eux, ils veulent avoir cette information-là, ben oui. Puis c'est pas nécessairement facile pour tous les entrepreneurs d'ici de s'asseoir avec des universités tous les jours, mais à travers des organismes, on est capable de faire des choses comme ça. Fait que oui, ça s'en va dans la bonne direction, puis même d'un point de vue, tu sais, comme grand public, je pense que les gens doucement commencent à réaliser tout ce qui se fait. Faut comprendre aussi que dans le cas de la guilde, par exemple, ça fait pas longtemps qu'on existe.
Non,
ça fait trois ans. Fait que, tu sais, toute la représentation qu'on fait, on l'a fait en ce moment beaucoup dans les universités, à un niveau politique, tu sais, là, on a une place à la table quand on parle de trucs fiscaux, par exemple, autour du jeu vidéo, comme c'est quoi les enjeux, comment est-ce qu'on pourrait améliorer nos conditions, comment est-ce qu'on pourrait attirer plus de main-d'œuvre ici, parce qu'il en manque. Il y a plein de...
Il en manque?
Ah ouais, il manque beaucoup de main-d'œuvre, là. On est dans une pénurie de programmeurs, puis de ci, de ça.
Pour qu'on fasse
des jeux. C'est clair.
Il en manque.
Fait que, tu sais, tout ça, c'est comme des nouveaux enjeux, comme ça fait trois ans qu'on existe, puis que pendant longtemps aussi, c'était des entrepreneurs qui naissaient à bout de bras, là, je veux dire, les Louis-Félix Cochon, puis des Pascal Nataf qui ont fondé ça. Ils ont mis énormément de temps à monter cette bibitte-là qui est la guilde. Aujourd'hui, on a du financement, on est rendu avec Jean-Martin Hassan qui est là, qui nous donne un coup de main.
Yes, ouais.
On a Valérie Savaria qui est notre employé à la guilde qui fait une job exceptionnel, puis doucement, on va grandir, on va pouvoir améliorer le sort de tout le monde, nos services commencent à s'implanter, on vient d'avoir des assurances collectives.
Ah, bravo!
Yes! Fait que là, tu sais, c'est doucement, on améliore le sort à tout le monde, mais c'est un processus, tu sais.
Non, mais c'est ça, tu sais, je pensais à comme, il y a eu, c'est drôle, là, je tire ça dans toutes les directions, mais...
Moi aussi, je pense, fait que c'est correct.
on se reconnaît très aisément là-dedans. Mais il y a une couple d'années, tu sais, il y a eu comme toute l'espèce de débat sur le joual en musique, tu sais, surtout en rap avec Ala Claire, puis tout ça, tu sais, je serais vraiment curieux de voir une analyse d'utilisation du joual en jeu vidéo, tu sais.
Il y en a sûrement, mais tu sais... Sans froid, Tales of Werewolves, c'est sur le folklore québécois. C'est Artifice Studio qui avait fait ça à l'époque, justement, avec Félix Cochon. Et puis, le voice acting dedans, il y avait le français, l'anglais. Puis le français, c'était français québécois. Puis l'anglais, c'était anglais québécois. Puis c'était comique en maudit de voir ça aller. Fait que, je pense que ça, c'est une autre manière de faire rayonner la province aussi.
C'est plutôt ça que je disais qu'on devrait faire. On devrait peut-être pas faire des jeux vidéo, mais on devrait comme se mettre à l'analyse du corps québécois. Voir, ça serait super intéressant. Tu traites ça comme un corps de texte.
Ouais, ben,
qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de notre culture?
Les études du jeu vidéo, puis les études de culture, je veux dire, il y en a énormément d'analyses qui se font, mais tu sais, c'est souvent dans des sujets très nichés. Moi, je pense que, tu sais, on n'est peut-être pas encore rendu à un stade où est-ce qu'on analyse chaque produit qui sort du Québec ou du Canada comme sous un angle académique, tu sais. Fait que pas comme un Tarantino sort, puis là, quelqu'un qui le décortique en mille morceaux, puis qui t'explique tous les plans séquences, puis tous les plans de caméra, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis, puis à quel point que c'est amazing, puis tu sais, c'est ce knowledge-là d'analyse, s'il y a très peu de gens encore qui l'ont, parce que ça fait pas si longtemps que ça non plus que les gens sont formés à voir ces choses-là.
T'sais. Ben, c'est quoi? C'est Dominique ou quand qui avait fait le gros truc sur Shovel Knight, là?
Ah, c'est Dominique. C'est Dominique.
Mais tu viens de pointer dans la poignée de gens qui le font adéquatement. T'as Dominique Arsenault, les Bernard Perron.
Ouais, c'est ça. Mais il y avait eu des ateliers d'expérimentation que Bernard Perron avait comme un peu encouragé l'hiver dernier sur justement des jeux québécois, nous, ce qu'il essayait, puis il discutait de ces créations-là. Mais en même temps, un peu comme tu as dit précédemment, Jean-Michel, on n'en parle pas de ces jeux-là dans le mainstream. Il n'y a pas de discours de réception sur ces jeux-là. On dirait que les communautés ne se manifestent pas de façon aussi massive.
C'est pas qu'ils se manifestent, mais dans leur coin.
Mais c'est ça. Il n'y a pas de
visibilité. T'as l'impression que tu vas ouvrir une porte puis il va y avoir comme...
Ouais, c'est ça,
mais... 35 000 personnes, wow, qu'est-ce que vous faites là? Alors, on fait juste jouer là, ferme la porte, fais frappe.
Okay. Mais c'est normal, parce qu'en tant que produit culturel, ça fait quand même pas si longtemps que ça, si on regarde dans le spectre des arts, je veux dire, le jeu vidéo, c'est nouveau, là, ça, c'est des années 80, là, comme on est dans peut-être 30 ans derrière, tu sais.
Mais il y a aussi le principe qu'aujourd'hui, quand on crée, puis on est diffusé sur les réseaux sociaux, on est diffusé sur Internet, puis on peut avoir la réception presque en temps réel de toutes ces... de tous ces jeux-là, puis un peu de voir comment les gens réagissent, comment les gens échangent à ce sujet-là. Puis il y a aussi le fait que, vu que c'est pas dans les médias mainstream, donc, vu que c'est pas nécessairement reconnu comme un objet artistique culturel à part entière, souvent c'est plus un divertissement qu'un objet culturel, les gens l'abordent pas de cette manière-là. Ils l'abordent comme un divertissement, ils l'abordent comme quelque chose. Ah, c'est le fun, c'est pas le fun. Ouais, qu'est-ce que vous aimez?
Trois étoiles et demie.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de réflexion plus poussée nécessairement sur la part culturelle de ces jeux-là, sur la qualité de la création graphique, narrative ou peu importe.
Exact, c'est juste. Puis tu sais, mais même du côté des développeurs, c'est pas nécessairement tout le temps là non plus. Fait que c'est normal. Tout le monde s'éduque que le jeu vidéo grandit. Les gens maintenant, ils peuvent sortir de l'université avec tout un pan d'études ou d'analyses qui n'existait pas avant. Puis ça aide les développeurs autant. Moi, je sors de. J'étais un produit d'études vidéoludiques. Moi, je suis pas un produit. J'étais pas un programmeur. Études vidéoludiques, c'était mon début. T'sais. Fait que moi, j'ai commencé en analyse, ce qui m'a permis de faire des choix aujourd'hui où est-ce que je réfléchis un petit peu plus à mes publics cibles, comment est-ce que ça va les impacter, de quelle manière je pourrais les impacter encore mieux ou des choses comme ça. Alors qu'il y a plein d'autres studios qui, eux, à la place, ils ont étudié en art. Fait que là, eux autres, c'est comme, OK, mon art, comment est-ce que je vais l'intégrer au jeu pour essayer de toucher les gens de telle manière, les couleurs que je veux utiliser. Puis il y en a d'autres qui c'est à travers les technologies, puis il y en a d'autres qui c'est à travers le design, puis l'écriture. Puis c'est ça qui est beau, là. C'est tout le monde l'attaque d'une manière vraiment différente, le produit culturel. Mais après, tout existe et est à faire
c'est
encore.
C'est la job de la critique, c'est-à-dire nous d'en discuter.
Yeah! Ouais. Yeah! Un genre de Rotten Tomatoes pour les jeux vidéo. Là,
on aspire à peut-être mieux que ça. Est-ce que tu penses qu'il y a. Moi, c'est peut-être très romantique, là, puis c'est comme ça que j'aimerais ça que ça se déroule. Fait que c'est pas ça, tu peux show down. Mais est-ce que tu penses qu'il y a comme un. Une résistance, c'est comme le mot le plus poli que je pourrais avoir, mais je veux vraiment y aller comme attaque totale d'embuscade massive envers le AAA?
Non.
Non? Y a-tu comme un moment où ce que. Parce que, bon, encore, notamment à l'extérieur, j'ai l'impression que. Dans le AAA, il existe trois jeux, à peu près. Pas trois titres, mais trois types de jeux. Il y a le simulateur de guerre, il y a le simulateur open world, puis il y a quelque chose d'autre, j'imagine.
Le non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais ce que moi je dirais, c'est que les enjeux sont quand même drastiquement différents chez le AAA puis chez l'indépendant. T'sais. Le AAA emploie des centaines de personnes par projet.
Et donc doit
se garantir à quelque part que oui, on peut innover, mais on peut innover dans un spectre qui nous permet quand même d'aller chercher le player base qui existe déjà pour être capable de réintéresser ce player base-là dans les produits qu'on fait.
Ouais, parce que le mot-clé ici, c'est le réintéresser au sens où t'es vraiment. T'es contraint par le fait qu'il faut que tu fasses de l'argent pour payer tes 100 personnes.
Oui, ben exact, c'est ça. Il y a toujours ces contraintes-là. Puis quand on fait une erreur chez les AAA, c'est des erreurs qui sont excessivement coûteuses. Si on fait une erreur chez Manavoid, bon, à mon niveau, c'est coûteux, mais n'empêche que c'est rattrapable. Ouais. Dans le spectre des argents, là, on parle des milliers, puis on parle des millions. C'est vraiment différent. Là. Fait que moi, je peux comprendre à quelque part leur... quand on parle d'innovation... il y en a des innovations dans, puis il y en a des nouveaux IP qui sortent, des nouvelles, des IP originales, il y en a. Oui. Mais effectivement, faut aussi comprendre les enjeux des gros joueurs, puis comment est-ce que eux, ils doivent traiter la chose. Mais là, c'est à nous aussi, les indépendants, de pousser la note sur nos manières de faire des choses. Nous, on peut pas compétitionner avec les AAA, puis on veut pas compétitionner avec les AAA. Moi, j'adore jouer à un Call of Duty ou à un GTA ou à whatever else. J'adore les shooters. Moi, j'aime beaucoup jouer à ce type de jeu-là. Mais moi, j'en ferai pas un parce que je sais que je vais me faire manger. Je pourrais jamais arriver au niveau de qualité qu'un Ubisoft peut faire avec un Rainbow Six. Mais ce que je peux faire, moi, par exemple, c'est peut-être attaquer des niches qui existent, que les gens sont super représentés. Par exemple, nous, dans notre jeu en ce moment, c'est sûr que on ramène la couleur dans un monde qui est en noir et blanc. Il y a un gros discours anticonformiste là-dedans. Okay. L'hétéronormativité, on va la questionner dans notre jeu, toute la qualité identitaire. Fait que nous, on peut innover de plein de manières différentes, que ce soit à travers l'écriture, à travers... Tu sais, il y a comme plein de manières qu'on peut tirer... l'innovation, tu sais. Fait que c'est aux indépendants de pousser la note, puis c'est au triple A de voir ce que nous on fait de bien, puis d'essayer de les intégrer dans les plus gros jeux, puis de pousser le bon message out there into the world, je pense.
Fait que vous les alimentez plus que essayer de proposer une antithèse.
Définitivement. Puis à travers l'organisation du Megamix, on s'est beaucoup rapproché aussi avec l'Alliance numérique, puis on se rend compte de plein de trucs. T'sais, on veut la même affaire. On veut faire rayonner le Québec. Ubisoft veut que le Québec rayonne autant que moi, je veux que le Québec rayonne. T'sais. Puis c'est vraiment un écosystème parce que, je veux dire, Ubisoft forme plein de gens. Ces gens-là, ils trippent à faire leur jeu, puis à un moment donné, ils sont comme, je veux des nouveaux défis. Ils partent un studio indépendant. Fait que, tu sais, c'est une roue, là, comme, où ils veulent travailler pour un studio indépendant pour peut-être avoir comme partez quatre chapeaux au lieu de juste un chapeau, ou tu sais. Fait que ça se feed, les universités rentrent là-dedans. C'est vraiment un écosystème qui est très très fort, puis qui est très
riche,
rodé, c'est riche.
Fait
que c'est faut pas le voir comme si on était aux antipodes, mais au contraire, faut le voir comme si on était parti d'un tout. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Puis,
ça, c'est moi qui est toujours comme
Puis le jeu vidéo le permet aussi, parce que vu que c'est un produit qu'on exporte à l'international, c'est pas comme si j'avais pignon sur rue pour un magasin de souliers, puis je me battais contre un autre magasin de souliers, puis on se bat pour la même clientèle. Là, la pointe de tarte, c'est la terre entière. Là. Il y en a du monde là, qui joue à des jeux.
Ben, c'est tout le monde avec une connexion Internet.
Ben oui, non seulement ça, mais il y a des nouveaux marchés qui émergent. Je veux dire, t'as la Chine, t'as l'Inde, qui est tout plein de gens qui avaient beaucoup de cellulaires, qui n'étaient jamais capables de jouer à des jeux PC. Puis là, aujourd'hui, à travers le streaming, Google Stadia, les nouvelles technologies qui s'en viennent, il va y avoir centaines de millions de personnes qui vont soudainement être capables d'accéder à mes produits.
Ah, merde, c'est vrai.
Fait que c'est spécial, là, c'est cool.
Ça donne le vertige un peu.
Ah, ouais, je vais l'acheter ma Switch, Gus, quand
même. Tu l'achètes un peu pour toi aussi.
Je voulais parler d'une affaire aussi.
Je t'écoute.
Vas-y.
Il y a quelque chose qu'on fait de spécial aussi avec l'événement cette année. On a décidé d'intégrer tout un nouveau pan communautaire qui est les communautés d'influenceurs à travers des plateformes comme Twitch ou YouTube. Donc, on a quelques influenceurs québécois qui se sont inscrits à cette bibitte-là. Notamment, on peut penser à Le Jeu C'est Sérieux, on peut penser à Ikey Liu, qui est un gros YouTuber, Steel Horse, Monkeyism, il y en a plein, là, il m'en manque, là. Mais essentiellement, les gens vont pouvoir, à travers ces influenceurs-là, acheter un billet à rabais. On donne une cote à l'influenceur, puis leur tag qu'ils vont avoir sur leur badge quand ils vont rentrer dans l'événement, il va être aux couleurs de l'influenceur, fait qu'ils vont pouvoir reconnaître les autres personnes de leur communauté pendant l'événement. Fait que on fait plus de maillage entre les sous-communautés de jeux vidéo, tu sais. Ça va être très, très cool, ce qu'on fait cette année.
Là, c'est vraiment une bonne initiative. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va tourner, là, parce que c'est une innovation que vous essayez.
On n'a jamais vu ça dans un autre événement. Fait que nous, on l'essaye pour une première fois. On va voir comment ça va se déployer. Mais à date, c'est intéressant comme ce qu'on va être capable de faire avec ça. Puis je pense que si les gens se reconnaissent, puis qu'on est capable de faire rassembler une couple de centaines de personnes dans notre événement, ça serait vraiment un win. Puis on va se prendre plus gros et d'avance l'année prochaine pour peut-être en avoir des internationaux si on est capable.
Ben c'est ça, tu vois, c'est ce que je disais tantôt par rapport à DragonCon, ça me fait penser vraiment à ça. Là. C'est ça, exactement. T'as essayé quelque chose de nouveau, puis ça va...
Ben, tu sais, il y a beaucoup, encore à faire, évidemment, mais je pense que le Québec, en général, a besoin d'arrêter de faire comme les autres, mais devrait comme accepter sa position comme le leader puis le pôle mondial du jeu vidéo.
Et arrêtez de chialer, acceptez que vous êtes les premiers.
Acceptez qu'on est les meilleurs, puis que... puis maintenant, on innove à la place. sais, puis qu'on soit toujours les premiers à essayer des nouvelles choses. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit en train de dicter comment est-ce que les choses se font au lieu d'être en train de réagir. Puis j'espère, on aspire à être capable de faire ça dans les années à venir en tant qu'industrie.
C'est très beau tout ça. Megan, as-tu une dernière question?
Non, ben en fait, je pense que ça a pas mal répondu à tout ce qu'on voulait discuter aujourd'hui. Donc, Megamix 2019.
16 au 19 novembre. Oh. Et puis, vous pouvez aller chercher vos billets sur megamix.com. Si vous travaillez dans l'industrie du jeu vidéo, le Mix va vous donner plein de conférences en plus du Mega, qui est plus un grand public. Fait que si vous tripez sur le jeu vidéo, là, c'est le Mega qu'il faut aller voir. Les deux événements ensemble vont se passer à chaque année. On l'espère. Ça va être une première fois qu'on fait ça avec l'Alliance numérique, mais ça l'augure très très bien pour être capable de refaire ça pour les années à venir, puis on espère que tout le monde va y être, puis qu'on va être capable de faire rayonner notre industrie et notre Québec comme du monde.
Yes! Ben merci beaucoup Christopher d'avoir répondu à toutes nos questions, puis d'avoir parlé avec nous aujourd'hui, c'était super intéressant, puis j'espère que ça a motivé certaines personnes qui étaient peut-être un peu réticentes ou qui connaissaient pas du tout l'événement à aller s'intéresser à ça, puis à découvrir l'industrie, puis la richesse de notre industrie aussi, qui est juste de plus en plus en train de en expansion et en train de rayonner à l'international, alors que nous, on la regarde même pas.
je pensais que c'était en fin de semaine, ça fait que j'étais comme un peu déçu, mais là que tu dis que c'est en novembre,
t'as le temps de te préparer mentalement. Là.
Tellement là. Merci énormément. Merci, Megan.
Merci à toi.
On va aller écouter The Mountain Goats avec Going Invisible 2 parce qu'ils ont fait un excellent album.
Yes. Merci. In the corners, but you can't see me. You can't see me, I'm free. I'm gonna burn it all down today. Down today, okay. I'm gonna burn it all down today and sweep all the ashes away. Count up the keepsakes in the cabinets, the keyboards and the chemistry sets. Look in the attic where the blinds are drawn. You won't find me, I'm gone. I'm gonna burn it all down today, okay. I'm gonna burn it all down today and sweep all the ashes away. Etch an outline on your heart. I'm gonna blow the whole circus apart. Reckon the remnants when they land at last, the shattered aftermath of the blast. Look for me everywhere the burn marks form, trying to find a place to keep warm. I'm gonna burn it all down today, okay. I'm gonna burn it all down today and sweep all the ashes away.
Tragédie intérieure pis malala. Conception de l'affaire tu t'es fait, mais pas proche d'arrêter tout suite. Oui madame, oui monsieur. Short de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais assez. Qui se pousse 7 jours sur 7. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie ton pis ton femme. C'est temps 6 déhanché ses drums. Au point qu'on besoin de mise en forme. Bébé, maman, ma papa.
roule le dawa dans l'appartement. Le power, le pot et la fête. Les voisins, voisines sont pas prêtes.
J'en fais mal.
Plein les mirettes, plein les papis. Dos cambré comme un papy. Traversé par la magie du moment, elle est percutée comme une anguille. En coupe ta kin ta quai. Callie secours quelqu'un. Bonheur coupable sur le constat, nous avons flingué en pleine gueule.
J'en fais mal. J'en fais mal.
Pieds sont des vrais vedettes.
Yeah, yeah.
Nus pieds sur le ciment frais. Ça crée des moves de danse direct.
J'en fais mal.
Tous tes regrets dans un panier. Amène ton panier au marché. Vois combien ton panier est petit à côté des autres paniers.
J'en fais mal.
Du Kembe Mutombo. Laisse tes jamais envahir ta zone. Du Kembe Mutombo. Lève ton index en haut puis fais non. Courage et force. Dans ta soi même ça cogne à la porte. Toc toc toc. Bien-être social. Même riche on veut le bien-être social.
J'en fais mal.